Chers amis, chers frères et sœurs, voilà une nouvelle rencontre durant cette période de confinement qui s'achève. Et aujourd'hui, notre partage sera autour d'un thème que je vais intituler Plutôt être que faire. Plutôt être que faire. De là découle la bénédiction divine. En fait, si je dois résumer le thème, c'est nous devons nous focaliser sur notre être, sur l'être, avant même de chercher à faire quoi que ce soit pour le Seigneur et pour soi-même. Et je prendrai comme cadre pour développer le thème d'aujourd'hui, Noé. Et le passage dans Genèse, chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Plutôt être que faire. Mais commençons d'abord par la prière. Père éternel, à toi la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Tout vient de toi, par toi et pour toi. Tu es souverain, tu prends contrôle de toutes choses. Merci, merci pour le don de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ en qui tu as mis toute ton affection. Un Fils qui est pour nous grâce, amour, raison d'être, le pourquoi de notre existence, le pourquoi de la création. De lui, par lui et pour lui. Toute chose a été créée. Merci pour ce don merveilleux. Et pardonne-nous si nous le réduisons par notre langage ou par nos pensées. Mais nous sommes faibles et tu nous as créés ainsi. Je te prie pour tous les frères et sœurs de notre Église qui sont dans la souffrance morale ou physique. Je te prie de les accompagner durant cette épreuve et de les faire sortir encore plus fort. Comme je te prie pour tous les frères et sœurs du monde entier, là où ils sont, je te prie de les accompagner, de nous faire grandir dans cette communion, en Christ. Je remets entre tes mains la situation de notre pays, la France, et je te prie d'accompagner nos dirigeants dans cette situation très difficile. Je te prie de les accompagner dans la prise des décisions, dans l'intérêt général. Je te prie pour la situation de tous ces citoyens qui ont perdu un travail et qui risquent de le perdre. Je te prie que, au-delà de l'aspect économique, que tu puisses intégrer leur cœur, qu'ils puissent trouver une raison de leur existence et que tu puisses aussi apporter un soutien et une aide à notre pays. Je remets entre tes mains le message que nous partageons ce matin, à commencer par l'orateur, que tu puisses parler à son cœur, que ces paroles deviennent vie. Je te prie que ces paroles que nous allons partager ensemble puissent être bénédiction pour chacun de nous, pour un seul objectif, celui que l'avancement de ton royaume. Je te prie de parler au cœur, de parler au plus profond de chacun de nous, afin que cette réalité spirituelle pour laquelle nous sommes créés devienne vie en chacun de nous. Je le prie, je le demande ce matin, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Alors, notre thème, comme je l'ai dit en préambule, plutôt être que faire, de là découle la bénédiction divine. Genèse chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Genèse chapitre 9. Cette parole, ce passage fait écho avec un autre passage dès le début de la Genèse, au début de la Genèse, ou plutôt dans Genèse 1, verset 28, où Dieu, s'adressant à Adam et Ève, leur dit, en parlant d'Adam et Ève, dit « Dieu les bénit ». Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ce verset, repris dans Genèse 9 avec Noé, est une promesse annoncée déjà dès la Genèse, dès la Genèse chapitre 1. Puisque, en formant et en créant Adam et Ève, il les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Genèse 1, 28. Donc c'est une promesse qui se concrétise, qui se renouvelle avec Noé. Une promesse annoncée chapitre 1, rappelée chapitre 9, mais entre les deux, il y a eu quand même toutes des épreuves, des siècles passés entre les deux. C'est une promesse pour chacun de nous. Certes, une promesse pour l'humanité. Mais c'est une promesse spirituelle pour tous les enfants de Dieu. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Oui, nous pouvons le comprendre sur la dimension terrestre. Faites des enfants, remplissez la terre, qu'il y ait plus d'habitants. Ça, c'est l'explication humaine, matérielle, je dirais visible. Mais comme nous avons l'habitude de le rappeler, la parole de Dieu a double dimension. Il y a le message visible, mais il y a aussi le message spirituel. Soyez féconds, c'est que ça veut dire transmettez la vie qui est en vous. Et cette vie n'est rien d'autre que Christ. C'est en transmettant cette vie qui est en nous qu'il peut y avoir une multiplication, telle que la multiplication du pain avec le Seigneur. L'Église se voit grandir avec une multiplication des enfants de Dieu. Mais d'abord, il faut qu'on soit fécond. C'est-à-dire transmettre cette vie qui est en nous, que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes, mais seulement Christ à travers nous, devient témoignage pour les autres. Dieu a assigné à chaque homme et à chaque femme une œuvre particulière. Chacun de vous, chers frères et sœurs, a une œuvre particulière. Vous avez une raison d'être là. Oui. Quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, on voit que les hommes et les femmes de Dieu annoncés dans la Bible ont chacun, chacune une vocation. Abraham, comme Abraham, qui a quitté sa patrie pour un objectif défini par Dieu. Il a été appelé pour un objectif déterminé. Joseph, Moïse, a été appelé à accomplir une œuvre spécifique dans sa vie. David, le roi David, avait une destinée. Il en fut de même pour Daniel, pour Jérémie, pour Jean-Baptiste, qui a rempli un rôle particulier, tout comme Pierre, Jean, Paul avaient un but, une raison d'être. Et j'en passe. Parmi eux, peu ont réalisé en quoi consistait leur œuvre. Oui. La plupart d'entre eux étaient comme vous et moi. Tout nous semble ordinaire et banal. Il ne semble pas que nous ayons quelque chose de particulier ou un appel à accomplir quelque chose. Moïse est un bon exemple. Oui, Moïse est un bon exemple. Les 40 premières années de sa vie ont été passées à apprendre comment être prince d'Égypte. Les 40 années suivantes, il les a passées dans le désert à désapprendre ce qu'il a appris. Voilà un message de la croix. Nous pouvons nous demander, mais qu'est-ce qui nous arrive? Moïse pouvait se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà 40 ans, j'apprends à être prince, et maintenant je suis dans le désert, j'apprends à désapprendre presque à oublier, à changer de vie. Humainement, on est frustré. Il semble pour lui que cela soit une vie gâchée, de désapprendre ce qu'il a appris. Quand Dieu l'a envoyé en Égypte, alors qu'il avait 80 ans, Moïse ne comprenait pas encore complètement toute l'étendue de ce que Dieu allait lui demander de faire. Il l'a envoyé en Égypte, et en plus il l'a envoyé avec un handicap. C'est qu'il ne peut pas parler en public. Il a fallu qu'il mette Aaron avec lui. Voilà un signe pour garder un enfant de Dieu, un homme de Dieu, entre les mains de Dieu, dans l'humilité, tel que l'apôtre Paul et les chartes qu'il a accompagnées toute sa vie. Voilà encore un argument. Mettre devant tous celles et ceux qui mettent en avant cette théorie ravageuse de prospérité où un chrétien ne doit être ni malade, elle doit être riche, elle doit, je ne sais quoi. Dieu permet la difficulté pour le maintenir entre ses mains dans l'humilité. Les Hébreux n'ont pas mieux compris quand Moïse est venu vers eux. Mais maintenant, nous comprenons que Dieu avait un but. Et il a utilisé Moïse pour ce but. Chers amis, chers frères et sœurs, des années que je me bats contre le morcellement de la parole de Dieu. On prend des passages et on explique le tout. Le détail explique le tout. Alors que c'est l'inverse. C'est toute la parole de Dieu. C'est-à-dire la vision globale de la parole de Dieu. La vision divine qui donne sens aux détails. Ce n'est pas anodin. C'est très important. Ce n'est pas le détail qui donne sens au tout, mais c'est plutôt le tout qui donne sens au détail. C'est quand je vois l'œuvre entière de Moïse que je dis, maintenant je comprends cette vision, ce plan de Dieu. Mais si je prends juste un petit passage de la vie de Moïse, je pourrais disserter, je perds la philosophie. Je peux même me révolter parce que je me focalise sur un détail alors que le sens se trouve dans le tout. C'est exactement comme une image. Si vous êtes trop près de l'image, vous allez avoir une vision tronquée, réduite. Il faut reculer pour voir l'image en grand. Et là, l'image trouve son sens. Joseph, maintenant, prenons maintenant l'exemple de Joseph. Dans son jeune âge, Joseph a senti un appel spécial de Dieu pour sa vie. Mais les choses ne sont pas passées comme il l'avait prévu. D'abord, ses frères ont essayé de le tuer, puis ont fini par le vendre à un marchand d'esclaves. Sa situation s'est un peu améliorée, mais il a ensuite été accusé d'une faute qu'il n'a pas commise, et il a été jeté en prison. Alors que Joseph a dû croire qu'il avait fait une erreur, en pensant avoir entendu quelque chose de la part de Dieu. Mais quand nous voyons le résultat final, voyez ce tout, quand nous voyons le résultat final, tout devient clair. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu a utilisé ses expériences avec Joseph pour le préparer, pour le modeler et pour le préparer pour l'œuvre qu'il avait à accomplir. Revenons à Noé. Notre cher Noé. Et dans notre verset Genèse, chapitre 9, verset 1. Nous voyons Dieu bénir Noé et ses fils. La bénédiction de Dieu signifie l'approbation et la faveur divine. L'histoire de Noé commence 400 ans avant sa naissance. Vous voyez, nous réduisons la naissance, la vie de Noé, le jour il est arrivé. Mais non, l'histoire de Noé commence 400 ans avant sa naissance. Pourquoi? Les Écritures nous disent que l'arrière-grand-père de Noé était Enoch. Nous savons qu'Enoch était un homme qui a marché avec Dieu et qui a soudain disparu. Comment? On n'en sait rien. Mais en tout cas, on sait qu'il était en relation profonde avec Dieu. Enoch était aussi un prophète. Oui, vous n'avez que... Chers frères, je vous invite à lire Jude, chapitre 14. Jude 14. Enoch était aussi un prophète. C'était un prophète que vous pouvez lire en feuilletant plutôt, la référence ne me vient pas tout précisément, mais si je ne me trompe pas, c'est dans Jude, dans le livre de Jude, vous verrez qu'Enoch est évoqué. Veuillez m'excuser si je n'ai pas cette précision pour le passage exactement, mais il est question d'Enoch dans Jude. Enoch avait ce don de prophétie, il était prophète. Il avait compris que le Seigneur allait bientôt exécuter son jugement sur la terre. Donc quand Enoch a eu un fils, il l'a appelé Methuselah. Qui veut dire, c'est ce prénom qu'il a donné à son fils, il a une double signification. Il a une signification prophétique. D'abord, il veut dire l'homme fléchette, ou l'homme flèche. Mais il veut dire aussi, si je dois traduire mot à mot, Methuselah veut dire à sa mort, on verra. À sa mort, on verra. Mais on verra quoi? Juste une petite précision. Dans la parole de Dieu, Methuselah est celui qui a vécu le plus longtemps. Hein. Elle a vécu à l'âge de 969 ans. Voilà, si vous voulez, c'est une précision importante quand même à donner. Oui, à sa mort, on verra. Voilà le sens du prénom donné au fils d'Enoch. On verra quoi? Peut-être que cela n'a pas de sens pour nous avant de lire la chronologie que nous trouvons dans Genèse chapitre 5. Toutes les générations de Noé nous sont données avec la période exacte pendant laquelle ils ont vécu et sont morts. Enoch eut un fils nommé Methuselah. Methuselah a eu un fils nommé Lémec. Et Lémec eut un fils nommé Noé. Quand nous évaluons le temps qui s'est écoulé entre Enoch et Noé, nous remarquons que Noé a terminé de construire son arche l'année où Methuselah est mort, juste à temps pour l'envoi d'un grand déluge. Exactement 969 années après qu'Enoch ait dit que cela devait arriver. Donc ce jugement avait été préparé près d'un millier d'années auparavant. Enoch savait qu'il allait venir. Oui, ce moment, Enoch savait qu'il allait venir. Mais Methuselah le savait certainement aussi. Mais aucun d'eux n'a été appelé à construire l'arche. Cette œuvre était réservée à Noé. Et malgré cela, il avait déjà 500 ans quand Dieu lui a révélé son objectif. Chers amis, Noé a marché avec Dieu pendant 500 ans avant que Dieu lui donne les plans pour construire l'arche. 500 ans avant que Dieu lui parle, il lui donne l'objectif. Il faut que ce soit un enseignement pour nous. Sachant tout, proclamons être capable de tout, voulant tout faire. Noé a attendu 500 ans de communion avec le Seigneur. Il l'a façonné, il l'a préparé, il l'a modelé. C'est seulement au bout de 500 ans il lui a révélé son objectif. La durée est un symbole, mais ça veut dire que nous devons être patients. Laissez le Seigneur nous façonner, nous transformer, que cette croix fait son œuvre en nous. Et quand ça sera fait, le moment sera venu, l'appel de Dieu sera entendu avec une, une telle facilité, tout naturellement, tout coulera de source. Si l'homme n'est pas bon, alors les plans ne sont pas bons. Et le Seigneur nous prépare à cette bonté, nous éduque pour cette bonté, dans cette bonté. Mais après que Noé ait cultivé sa relation avec Dieu pendant 500 ans, le Seigneur a finalement dit, « Maintenant, je peux te faire confiance pour accomplir l'œuvre pour laquelle je t'ai appelé. » Ça me fait penser à l'apôtre Paul, entre ce qui s'est passé avec lui sur la route de Damas. Quand cette lumière jaillit, l'a aveuglé. Pendant 3 jours, il ne voyait plus rien. Et on a l'impression que tout de suite après, Dieu a fait appel à lui pour proclamer sa parole. Non! Il s'est passé des années entre ce qui s'est passé sur la route de Damas et l'appel de Dieu pour son œuvre. Dieu prend le temps pour nous façonner, pour nous transformer, pour nous faire vivre ce brisement effectué sur la croix. La plus grande ennemie de Dieu, certainement, c'est le diable. Mais notre nature l'est autant. Parce qu'elle veut toujours aller ne faire que ses plaisirs, que ses désirs, que ce qu'elle veut. Et c'est pour cette raison que le Seigneur l'a crucifié avec lui sur la croix. L'œuvre que Dieu bénit est plus grande que nous. L'arche n'était pas la petite protection privée de Noé. Ce n'était pas son petit ministère, sa petite vision à lui. Bien sûr, Noé et sa famille ont bénéficié de l'œuvre, mais l'objectif de l'arche était de préserver toutes les créatures vivantes. Sinon, Noé aurait construit un bateau bien plus petit. Quand le Seigneur nous donne un travail à faire, il sera plus grand que nous-mêmes. C'est pour ça qu'il nous prépare pour ce travail. Et quand je dis ce travail plus grand que nous-mêmes, par taille, je ne veux pas parler en termes de nombre de personnes ou d'argent. Je ne veux pas dire qu'il y a une grande église, un grand bâtiment, beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs, ou beaucoup d'argent sur le compte bancaire. Mais ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. L'œuvre ne se compte pas d'une manière humaine. L'œuvre de Dieu ne peut pas être quantifiée humainement. L'objectif doit être rempli, doit être plus grand que la personne qui le remplit. Oui, l'objectif pour lequel Dieu appelle doit être plus grand que la personne qui le remplit. L'œuvre que Dieu bénit n'est pas simplement pour notre propre intérêt, mais pour le bénéfice du corps de Christ, pour le royaume de Dieu. Notre vision doit nous emmener au-delà de nous-mêmes. Notre vision doit nous survivre. La seule vision qui est plus grande que nous est Christ. Si notre vision est Christ, alors nous construirons sur les fondations éternelles. Mais faut-il le laisser nous transformer dans notre intérieur? Vous voyez, on revient toujours à la même chose. On peut être d'accord sur beaucoup de vérités spirituelles, mais quant au fait, nous ne voulons pas nous asseoir et laisser le Seigneur nous transformer. Si notre vision est Christ, alors nous construirons sur les fondations éternelles. Et le Seigneur bénira ce travail. Noé a porté le Messie au sein de lui-même. Noé avait le Messie en lui. Noé a porté le Messie dans son sein. L'arche n'a pas été faite seulement pour préserver la vie physique, mais une lignée spirituelle. Cela a donc été plus grand que Noé. Et le Seigneur a béni l'œuvre. Chers amis, chers frères et sœurs, l'œuvre que Dieu bénit est celle qui va au-delà de notre capacité à faire pour nous-mêmes. En d'autres termes, si je peux tout faire par moi-même, alors je n'ai pas besoin de bénédiction du Seigneur. Je peux simplement faire appel à mon talent naturel, à mon expérience, à mon habileté pour faire ce qui est à faire. L'œuvre faite de cette manière peut avoir au nom du succès. Mais dans tous les cas, c'est mon œuvre, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Et cela ne nécessite pas les bénédictions du Seigneur. Le Seigneur prend plaisir à nous placer dans des situations impossibles. Comme Noé. Noé n'était pas un constructeur de bateaux. Pourtant Dieu l'a appelé à faire la chose qu'il ne pouvait pas faire. Et lui a donné des détails spécifiques et précis pour le faire. Rien d'aussi grand n'avait jamais été construit. Le projet a mis 100 ans pour être achevé. 100 ans pour être achevé. Mais la chose la plus incroyable au sujet de ce bateau était qu'il fut construit sur un sol sec. Et la Bible dit que Noé avait la foi. Noé avait la foi. Le bateau a été construit sur une base, la foi. Et je vous invite à lire Hébreux chapitre 11, verset 7. Quand Dieu nous demande de faire des choses impossibles, nous pouvons demander, espérer de recevoir la bénédiction du Seigneur sur notre œuvre. Il nous montrera ce qu'il faut faire et nous aidera à le faire puisqu'il est en nous et nous sommes en lui. Ancrés dans cette communion, alimentés, vivifiés par cette œuvre salvatrice de la croix. L'œuvre que Dieu bénit a pour origine Dieu lui-même. C'est une des leçons les plus importantes que l'on puisse apprendre, et nous devons apprendre cela. Au lieu de faire descendre Dieu à notre niveau pour accomplir ce que nous voulons, il est bien mieux de venir sur le terrain du Seigneur et faire ce qu'il souhaite, même plus, le laisser faire ce qu'il souhaite. Il y a une grande bénédiction qui est disponible quand nous coopérons simplement avec ce que Dieu a déjà prévu de faire dans une communion avec lui en son Fils Jésus-Christ. Le ciel nous soutient puissamment avec une grande autorité. Chers amis, chers frères et sœurs, au lieu d'essayer de faire quelque chose, nous devons nous aligner sur ce qui est déjà fait, sur ce qui existe déjà. Le Seigneur ne repoussera aucune demande qui soit en harmonie avec ce qu'il a lui-même prévu. Noé pouvait s'attendre à la bénédiction du Seigneur sur son œuvre parce qu'il accomplissait ce que le Seigneur avait déjà prévu de faire. Quand nous ne sommes motivés que par les besoins de Jésus et pas par les besoins des hommes, ni par nos besoins, alors nous sommes sur le chemin de la bénédiction continuelle, continue et sans fin. Noé a marché avec Dieu et Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Cela a pris 500 années de marche avec Dieu. Mais Noé a trouvé grâce. Et c'est pour cela que cela vaut la peine. C'est un enseignement spirituel pour nous. Apprenons à ne rien faire en dehors de cette incroyable grâce. Il vaut mieux attendre la grâce pendant 500 ans que de travailler 5 minutes sans l'avoir. Oui, l'incroyable grâce. C'est simplement Jésus qui vit en nous, en moi, et faisant ce que je ne peux pas faire. Il importe peu si ce que je ne peux pas faire, c'est me sauver moi-même, vaincre le péché, aimer mon prochain, ou faire comme Noé, construire une arche. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, et la grâce est une personne, c'est Christ lui-même. Et je vous invite à lire Éphésiens chapitre 2, verset 8. Je ne suis pas capable, mais sa grâce, c'est-à-dire Christ, est suffisante. Sa grâce, Christ, est plus suffisante. Sa grâce, Christ, est une source inépuisable. Le Seigneur a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Je termine, chers frères et sœurs, chers amis, pour, je dirais, ce souhait, cette espérance, C'est comme une prière. Seigneur, aide-nous à nous focaliser sur toi, sur ce que tu as accompli. Et nous te prions de nous révéler Christ, Père, parce que c'est Christ notre vie. Et c'est en grandissant de cette communion que nous pouvons vivre en harmonie avec ton plan. Je te prie de nous donner la patience et aussi le désir intérieur de te laisser nous façonner. Chers amis, chers frères et sœurs, je termine par vous dire, focalisons-nous sur être plutôt que sur faire. Que Dieu nous aide. Amen.